un marteau. Et j'étais là, à côté de la lavande, et j'ai commencé à frapper, et à frapper, et à frapper. Et vous connaissez la terre ici à Toulouse. C'est dur, hein? Il y a des cailloux, je veux dire, plus que ça, des rochers, hein, qui sont cachés là. Et mais j'étais en train de faire comme ça, comme ça, comme ça. Oh là là, c'était fatigant. Donc, j'ai eu l'idée de rentrer à la maison et chercher un pichet d'eau. Et j'ai bien arrosé la terre. Et j'ai continué. Mais ça n'a pas entré. Il y avait la boue, hein, mais ça n'a pas entré. Et j'ai versé encore de l'eau. Et j'étais en train de faire comme ça. Et j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé. Et enfin, le bois, c'était des morceaux un peu partout dans la boue. Oui, des morceaux. Et enfin, j'ai vu ça entrer dedans. J'étais à genoux. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Le terrain en France est dur. Et oui, nous pouvons essayer par nos propres efforts, mais ça ne marche pas. Mais lorsque j'arrose la terre par mon esprit, lorsque mon peuple prie, je vais bâtir mon église. Mais ça va coûter. Il y aura la souffrance. Des morceaux de bois, c'était la souffrance. C'était brisé. Mais quand même, le Seigneur m'a promis de bâtir son église. C'est la quatrième fois que nous sommes ici pour un module de l'école de prière. Et mes amis, c'est plus qu'un séminaire sur la prière. Nous sommes en train, avec notre marteau, à faire entrer ce morceau de bois dans la terre. Mais nous sommes ensemble. Vous êtes l'espoir de la France. Vous êtes l'espoir de la France. Et si on continue à aller dans un sens plus profond dans le cœur de Dieu, par la prière, nous allons voir les choses que nous n'avons jamais imaginées. Je dis à mes amis aux États-Unis, j'ai dit ça dans une église récemment, bientôt, vous allez prendre des avions pour aller en France pour voir des merveilles de Dieu. Amen. Le réveil qui éclate en France. Vous allez venir voir la France, ce que Dieu est en train de faire dans ce pays que tout le monde pense est dur et difficile. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et chaque fois qu'on a un module de l'école de prière, presque chaque fois, je pense, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va marcher? Et chaque fois, vous êtes là. Ça vaut la peine. Car Dieu est en train de faire quelque chose ici. Vous êtes des représentants de plusieurs églises. Qu'est-ce que le Seigneur va faire ce week-end? Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces moins de 24 heures ensemble? Il a quelque chose pour nous tous. Pour nous tous, individuellement, pour notre couple, pour notre famille, pour nos amis, pour notre Église. Le Saint-Esprit souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Donc, je voudrais vous encourager à faire quelque chose. Avant de recevoir un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça? On met les mains dans nos poches. On est là pour recevoir. On est là pour recevoir. Donc, si vous vous sentez à l'aise, peut-être que vous devez faire ça à l'intérieur, dans votre cœur. Mais si vous vous sentez à l'aise, je vous encourage à mettre les mains devant vous, comme moi. C'est tout au début de ce module. Nous avons déjà, nous sommes entrés dans la présence du Seigneur. Merci, Béa, Rachel et Brian. Nous sommes entrés dans la présence du Seigneur. Donc, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous ce week-end? Qu'est-ce que tu veux nous donner? Encore plus de toi, une connaissance meilleure de toi. Une connaissance plus profonde de ta volonté pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner? Nous sommes là devant toi pour recevoir. En toute humilité, en soumission, mais avec joie et avec confiance et foi, car tu es à l'œuvre. Et tu nous as appelés ici, dans ce lieu à part, pour te rencontrer. Donc viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme toi, Seigneur, tu pries. Enseigne-nous, Seigneur. Merci. Merci d'avance. Merci. Merci, Seigneur. Merci. En ton nom puissant. Amen. C'est la leçon 5 dans votre livret. Nous allons parler du ménage. Il y a ceux qui aiment le ménage. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Mais quand même, il faut nettoyer la maison. Et si nous voulons voir un changement en France, l'Église doit nettoyer la maison. Oui. La leçon 5. Exode 20, versets 4 à 6, les versets qui sont marqués dans votre livret. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, lorsqu'on arrive des invités, normalement, parce que je connais quelques cas qui n'étaient pas le cas, mais normalement, lorsqu'on reçoit des invités, on fait un effort pour bien nettoyer la maison, n'est-ce pas? On passe l'aspirateur. On enlève la poussière des meubles. On nettoie les WC. Hein? C'est important. Et dès que les invités arrivent, tout est en bon ordre. Nous avons acheté une maison aux États-Unis. Et donc, je ne suis pas bricoleur. du tout. Mais quand même, je dois faire un effort. Par exemple, pour nettoyer les gouttières autour de la maison. Et j'ai regardé sur YouTube. YouTube, c'est la référence, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est facile. Ça prend 5 minutes. Donc, j'ai bien regardé. Et donc, j'ai pris une échelle et je suis monté. Tu n'étais pas à la maison. J'ai dit, mais si je tombe, qui va m'aider? Elle va me trouver par terre. Et j'ai vu, ça n'a pas l'air très difficile. J'ai commencé à nettoyer un peu avec la main, les feuilles aussi. On n'a pas de toile sur les maisons dans cette région des États-Unis. Mais je ne sais pas comment on appelle ça. Des trucs plats. Pas comme des tuiles, mais
des
ardoises. Oui, pas vraiment des ardoises, c'est pas ça. Mais quand même, ça donne un peu de sable. Et donc, j'avais beaucoup de sable là aussi. Donc, j'ai nettoyé. J'ai jeté les choses par terre parce que j'ai dit, bon, après, je vais nettoyer ça. Et j'ai pris un tuyau, parce que c'est ça sur YouTube. Ils ont fait ça avec de l'eau. Et ça... En fait, j'avais un petit problème. J'avais un bouchon. Et je n'arrivais pas à déboucher ça. Je n'y vais pas du tout. En fait, à notre rentrée aux États-Unis, je dois continuer à regarder les YouTube. Peut-être j'ai oublié quelque chose. Parce que ça n'avait pas l'air facile. Et je ne pense pas que je vais mettre ça sur YouTube. On ne voit pas ça, n'est-ce pas? Les gens qui ne réussissent pas, ils font des vidéos pour montrer que ce n'est pas aussi facile. Personne ne regarde ça. Mais pour nous, de la même façon, nous devons prendre le temps pour que notre âme soit bien nettoyée. Pour que notre intérieur soit débloqué, débouchonné, quoi. Si nous voulons avancer en Jésus, nous devons enlever tous les obstacles et nettoyer la maison de notre âme. Dans ce passage d'Exode, Dieu dit qu'il va bénir jusqu'à 1000 générations. Imaginez ça. Ce qu'on fait ici ce week-end peut avoir un impact sur les générations à venir. Donc c'est tellement important pour nous de faire ce qui est nécessaire pour que notre âme soit bien nettoyée. Nous devons briser la malédiction pour que la bénédiction de Dieu règne dans notre vie et dans la vie de nos enfants et les générations qui suivent. Il y a 4 armes principales que l'adversaire utilise dans notre vie. La tentation, l'accusation, la tromperie, le pouvoir, les mensonges et le contrôle. Donc, si on parle de la tentation, Satan nous tente d'établir des idoles dans notre vie. Des idoles? Nous, les chrétiens évangéliques, nous avons des idoles dans notre vie. On peut avoir plusieurs idoles. Ça peut être notre conjoint, nos enfants, notre foyer, notre travail, le sport, tout cela peut représenter les idoles dans notre vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, tout ce qui prend notre énergie et notre temps, ça peut être une idole dans notre vie. Pendant cette année, cette deuxième année, on parle du couple et de la famille. Il arrive souvent que l'adversaire essaie de détruire le couple et la famille par l'immoralité sexuelle, qui peut être vraiment une idole dans notre vie. Ça peut faire partie de l'idolâtrie. Car les rapports sexuels créent des liens d'âme entre les deux membres du couple. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte que les relations sexuelles en dehors du mariage créent des liens d'âme. Les deux membres du couple sont liés l'un à l'autre. Et c'est normal, car Dieu a créé des relations sexuelles pour encourager la communion intime entre les conjoints. Il est vrai que Dieu nous pardonne. Si on se repente et on débarrasse les choses de notre vie, les choses qui ne sont pas à sa gloire, Dieu nous pardonne, il nous libère, mais il y a quand même toujours des conséquences de notre péché. Ça arrive. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc il faut que ces liens soient identifiés et brisés au nom de Jésus pour que nous soyons libérés. Nous devons reconnaître que la pornographie dans notre société aujourd'hui présente de plus en plus des problèmes car on se sent protégé, en sécurité, tout seul devant l'écran. Mais personne ne sait ce qui se passe. Quand même, il y a toujours des conséquences lorsque nous cédons à la tentation. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et nous sommes dans un temps où nous sommes libérés. Donc je dirais, si une femme, si elle fait la même chose envers un homme, ça marche dans ce sens-là aussi. Je sais, on touche des choses, mais on parlait des gouttières, maintenant on parle de la sexualité. Immoralité sexuelle, oui. Parce qu'en fait, c'est peut-être le sable de notre vie, ou les feuilles qui débouchent tout, qui bloquent tout. L'accusation. L'accusation est la condamnation qui vient de la honte et la culpabilité une fois que nous avons cédé à la tentation. Et notre adversaire, il aime bien nous accuser. Selon Apocalypse 12, verset 10, il nous accuse jour et nuit devant notre Dieu. Il ne se fatigue pas. Hein? L'accusation et la condamnation sont exactement le contraire de ce que Dieu fait pour nous en Christ. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on revienne à lui? Si nous avons le sentiment dans notre vie, après avoir cédé à la tentation, qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il nous attire toujours vers lui. Il veut qu'on revienne à lui. Il nous accueille. Il est prêt à nous laver. Et si on ressent vraiment la condamnation, ça vient de l'adversaire, ça ne fait pas partie de notre nouvelle identité, on vient de chanter ça. Je suis un enfant de Dieu. Nous avons la victoire de Jésus grâce à la croix. Donc, cette réalité, cette puissance qui vient de l'œuvre accomplie de Jésus remplit notre esprit d'espoir du ciel. Pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est vrai, lorsque nous cédons la tentation, l'adversaire nous accuse, il nous condamne. Et troisième arme, c'est... Ah non, non, ça je... Pardon. Il faut que je dise quand même. L'adversaire nous accuse, il nous condamne, mais parfois, nous sommes là pour aider l'adversaire. Oui, on aide. En tant que membre de la famille, nous pouvons participer, aider l'ennemi dans l'accusation, la condamnation, quand nous nous plaignons les uns contre les autres. En fait, grogner est une forme négative de prière qui peut réellement apporter des malédictions sur notre conjoint ou d'autres membres de la famille. Je sais que ça ne vous arrive jamais. Mais parfois, ça m'arrive. Hein. Donc, je parle de ma vie intime. Nos paroles sont puissantes. Qu'est-ce que les proverbes disent? Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons faire attention à ce que nous disons, la façon dont nous parlons les uns aux autres et dont nous parlons des autres. Soit nous nous alignons avec Dieu pour bénir les autres, soit avec l'adversaire pour maudire. Cette puissance est réelle, est vraie, et ce n'est pas une exagération. Ce qui est vrai dans la famille est aussi vrai dans la famille de Dieu. Éphésiens 4, 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Jacques, si on veut être encouragé, on ne lit pas la lettre de Jacques. Parce que ces phrases sont comme des pics. Aïe! Jacques 4, verset 11. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Je pense que c'est assez clair. Troisièmement, la tromperie et le pouvoir des mensonges. Tout esprit de mal est un esprit mensonger. Satan est le père des mensonges. Une fois que nous cédons à la tentation, il essaie de nous faire croire que nous allons toujours céder à la même tentation. Il veut qu'on se voie impuissant. Je ne peux rien faire. Incapable de faire autrement. Il nous ment à ce sujet. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous pouvons surmonter le péché. Cela fait partie de notre héritage en Christ. Quatrième, contrôle. Satan cherche toujours à nous contrôler par la sorcellerie. La sorcellerie, oui. La sorcellerie est la manipulation ou l'intimidation pour des raisons de domination ou de contrôle. Ce n'est pas notre responsabilité de contrôler les autres. Nous ne sommes pas Dieu. Il ne nous a pas donné le devoir d'exercer notre contrôle sur les autres. Nous devons faire attention à respecter la liberté des autres. Le contrôle vient de la peur et le sentiment d'insécurité. Si quelqu'un, j'ai entendu ça récemment, si quelqu'un te dit que tu aimes bien contrôler les choses, c'est vrai. C'est les autres remarquent. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai demandé à mes enfants, est-ce que je suis comme ça? Et ils ont dit, non, donc je ne suis pas comme ça. Et je voulais dire, ah si. Ils avaient peur de te dire autrement. Nous avons l'impression que nous devons contrôler les autres afin que nos désirs soient satisfaits. Et la manipulation est le moyen qu'on utilise pour forcer les gens à faire notre volonté. Et ça se manifeste souvent par un esprit religieux. Qu'est-ce que c'est en fait? L'esprit religieux tient à une forme de crainte de Dieu, mais nie sa puissance. J'aime bien Rob Reimer. Il enseigne bien, il enseigne surtout bien sur ce sujet. Il dit qu'un esprit religieux est illustré par les pharisiens dans le Nouveau Testament. Il provient souvent d'une simple attitude, mais il peut aussi être d'origine démoniaque. Et quelles sont les caractéristiques de cet esprit? Orgueil. Quand nos disciplines spirituelles deviennent des routines, des traditions, nous augmentons notre connaissance sans grandir en intimité avec Dieu. Notre tête s'élargit, mais notre cœur rétrécit. Contrôle. Et le fruit de contrôle, des attaques et la division. Un esprit qui propose des solutions humaines à des problèmes où Dieu seul peut intervenir. Centré sur la performance. Votre valeur est déterminée par la performance. Faites plus d'efforts, faites mieux. Il faut faire. Et le résultat? On devient légaliste. C'est dirigé par la peur. La connaissance intellectuelle avant la vraie connaissance qui provient du cœur. Seigneur, délivre-nous d'un esprit religieux. Il y a certains points d'accès démoniaques dans la vie des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, selon la Bible. Parce que la possession veut dire que la personne appartient vraiment. Si le Saint-Esprit demeure dans quelqu'un qui... Il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître Jésus. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit qui possède la personne et un esprit démoniaque. Mais on peut être démonisé, oui. En tant que croyant en Jésus, ah oui, j'ai déjà dit ça, nous pouvons vivre sous l'influence des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et son objectif principal est de contrôler le processus de pensée, les émotions, de sorte que notre propre personnalité soit rendue passive. Ainsi, les caractéristiques négatives de la présence démoniaque sont acceptées par nous comme étant propres à notre nature, tels que les esprits de colère, la peur, le désir ou la convoitise sexuelle, la désobéissance, la rébellion. La désobéissance est un autre agent principal qui ouvre la porte à l'ennemi et qui peut conduire à la culpabilité, la honte, l'autocondamnation, les dérives sexuelles, les crises émotionnelles, les dépressions nerveuses, même le suicide. La colère, ça peut ouvrir la porte à l'adversaire. Ce n'est pas une émotion primaire, mais c'est un ouvre-porte principal pour l'ennemi. La colère masque souvent la peur et l'insécurité et nous fait sentir fort. Prenons le temps de réfléchir avant de réagir. Posons-nous des questions. Pourquoi suis-je en colère? Pourquoi cela importe tellement pour moi? Quels sont les besoins que j'ai et qui ne sont pas satisfaits? Et l'amertume, c'est aussi la colère. C'est un manque de pardon. Et ça ouvre la porte à l'adversaire. Nous allons faire un exercice maintenant. Dans votre livret, il y a plusieurs prières. J'ai parlé de nettoyer la maison. Tout ce que j'ai enseigné, c'est que des exemples. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour nettoyer la maison? Il faut que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? Donc, il y a quatre prières, je pense, ici, quatre ou cinq. Et ce que nous allons faire... Je vais lire en premier la première chose. Se mettons nous au Christ et confions notre foi à son sacrifice. Il y a une prière qui suit. Je vais vous donner le temps de lire la prière, pas à haute voix, de lire la prière. Et puis, si vous êtes d'accord et si ça correspond à votre situation, je vais lire la prière et vous pouvez la lire avec moi à haute voix. OK? Et personne n'est obligé de le faire.
Où est-ce que tu la
trouves? C'est la page 22. Merci. C'est la page 22. OK? OK? Donc, c'est une façon de participer, c'est une façon pour nous d'aller dans ce sens, de nettoyer la maison. Donc, la première chose, nous devons nous soumettre au Christ et confier notre foi à son sacrifice. Donc, prenons le temps maintenant, dans le silence, à lire cette prière. Et si ça correspond, nous allons lire la prière à haute voix. Si vous êtes d'accord, je vous encourage à prier avec moi. Père, je me soumets à toi en ce moment esprit, âme et corps, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ta mort sur la croix est le seul et unique sacrifice pour mon péché. Tu as été percé pour mes transgressions. Tu as été écrasé pour mes iniquités. Tu as pris mes infirmités et as porté mes peines dans ton corps, sur la croix et par ton sang. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Deuxième, confessons et repentons-nous de tout péché, le nôtre et le péché générationnel dans notre lignée familiale, rébellion, idolâtrie, passivité. Recevons le pardon. Donc c'est plus long, donc je vous encourage à prendre le temps à lire cette prière. Et si vous êtes d'accord, on va le prier ensemble. Père, j'avoue et expose mon péché et celui de ma lignée familiale dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais un enfant des ténèbres, mais maintenant je suis un enfant de la lumière. J'expose tout mon péché, mon idolâtrie, ma rébellion, mon iniquité, ma désobéissance à la lumière de ton amour et de ta grâce. Je renonce à ma passivité en faveur du diable. Il est mon ennemi et aujourd'hui je me lève contre lui. Maintenant, je reçois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, un pardon plein et complet pour le péché et le retrait de ma honte. Car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je suis libre, je suis propre, lavé par le sang de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Troisième. Pardonnons à tous ceux qui nous ont blessés, desservis ou trompés. Père, maintenant, je reconnais les moments où j'ai été blessé, desservi ou trompé par d'autres personnes. Je choisis de leur pardonner pleinement, maintenant, pour tout ce qu'ils ont fait contre moi et contre ceux que j'aime. Je renonce à l'amertume, je renonce au manque de pardon et je choisis de pardonner dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Supprimons tout contact avec ceux qui touchent à l'occultisme et brisons la malédiction. Père, je choisis de nettoyer la maison, exposer et supprimer tout ce qui est satanique ou des objets d'occultisme physique de ma maison et qui sont en ma possession. Fétiches, astrologie, les charmes chanceux, les bibles gratuites de maçonnerie ou d'autres objets d'origine maléfique. J'y renonce et je les retire de ma possession. Je me soumets au nom du Seigneur Jésus-Christ seul. Je renonce à mes péchés d'idolâtrie et aux péchés de mes ancêtres. Je renonce à toutes les servitudes et à toutes les forteresses de ma lignée et proclame que ma nouvelle lignée est à travers le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Je me lie au Christ et à son œuvre accomplie. Et après, il y a une déclaration de liberté où on brise les emprises générationnelles. C'est long, mais c'est important pour nous. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Okay? Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Et donc, on déclare ces vérités et on renonce à tout ce que l'adversaire essaie de faire ou a essayé de faire dans notre vie. Satan, je te lis maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te commande de me quitter parce qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je lis maintenant, selon la volonté de Dieu, tous les esprits démoniaques qui ont déjà eu de l'influence sur moi ou sur ma famille. J'interdis à tous les esprits démoniaques à l'intérieur ou à l'extérieur de notre famille de recevoir de l'information ou de la force en provenance d'un autre esprit démoniaque. Je détruis toutes les missions précédentes et actuelles de Satan et sa hiérarchie qui a eu une influence démoniaque sur nous, et j'interdis à tout démon de se manifester de quelque manière que ce soit. Je viens contre tous les esprits malins dans la lignée de mon père et de ma mère, en reculant jusqu'à la troisième et quatrième génération, et je détruis ton pouvoir sur moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me suis soumis à mon Dieu et j'ai réclamé ma nouvelle lignée dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas rester. Je te réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ et je t'ordonne de me quitter esprit, âme et corps. Laisse ma pensée et mon corps et ne me reviens plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je brise toutes les malédictions prononcées et non prononcées et je commande à tous les esprits liés à ces malédictions d'aller à l'endroit où le Seigneur Jésus leur ordonne d'aller maintenant afin qu'ils ne reviennent plus jamais chez moi. Et donc la prière pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Père, maintenant, je reçois la plénitude du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de tous les domaines de ma vie, esprit, âme et corps. Reprends le terrain que j'ai cédé à l'ennemi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et marque saint pour le Seigneur sur tous les domaines de ma vie. Prends le contrôle et glorifie le Christ Jésus en moi et à travers moi. Je reçois maintenant ta bénédiction sur moi et mes enfants jusqu'à 1000 générations. Ce que nous venons de faire peut transformer nos églises. Si on commence à vraiment être sérieux avec le Seigneur et nous débarrasser des choses qui ne viennent pas de lui, être vraiment ouvert à la plénitude de l'Esprit, qu'il soit au contrôle de notre vie, ça transforme notre vie et aussi nos assemblées. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Oh Seigneur, tu es seul capable de nettoyer notre maison. Mais Seigneur, c'est vrai, ça dépend de notre volonté. Ça dépend de notre désir que ça arrive. Et aussi de notre désir de faire ce qui est nécessaire pour que notre âme soit bien nettoyée. Donc Seigneur, que tu nous aides par ton esprit à nous rappeler ce que nous avons fait aujourd'hui. Et Seigneur, aide-nous à être entièrement à toi, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, en ton nom puissant. Amen. Louons le Seigneur ensemble.